Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Diana Durbin.
Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la filmographie d'une actrice américaine, un peu oubliée, on peut le dire, Diana Durbin.
Un peu oubliée en France, c'est vrai, mais pas en Amérique, en Grande-Bretagne ou même en Russie, où tous les gens âgés, disons, de plus de 45 ans, la connaissent encore car elle était une énorme star dont les films passaient en boucle à la télévision. Si aucun de ses films ne peut être qualifié de chef-d'œuvre, cette soprano boulotte mais attendrissante fit l'objet d'une véritable adoration qui la mettait très mal à l'aise. Elle était insatisfaite de ses rôles d'adulte au cinéma et comme elle n'appartenait pas à la famille de la scène de Broadway, elle a tourné le dos à toute cette gloire à l'âge de 27 ans. Il lui restait à l'époque 64 ans à vivre et elle les a passés finalement pas dans l'isolement comme Garbo, mais comme une mère de famille anonyme dans l'un des rares pays où elle n'était pas si connue que ça, la France.
Et pourtant, au milieu des années 40, elle a vraiment été une vedette importante à Hollywood.
Ah ben oui, imaginez, en 1946, Diana Durbin gagna 323 000 dollars, ce qui faisait d'elle la deuxième femme la plus payée d'Amérique, battue d'une courte tête par Bette Davis. Mais elle était née au Canada, de parents originaires du Lancashire, et elle était aussi, en Grande-Bretagne, la seule vedette américaine dont la célébrité dépassait à l'époque celle des vedettes locales. Elle a été recrutée par la MGM pour le biopic d'une chanteuse d'opéra qui ne fut jamais tournée et elle joua en 1936 dans Every Sunday, un film de 11 minutes où elle fait étalage de sa tessiture tandis que Judy Garland y montre ses dispositions pour le swing. Donc voilà, nous avons ce petit film de 11 minutes en 1936 avec ses deux toutes jeunes filles, Judy Garland et Diana Durbin. Et alors là, une légende tenace veut qu'en voyant ce petit film qui montrait ces deux jeunes talents, Louis B. Mayer donc ait dit « virer la grosse ». Mais alors, ses assistants avaient compris par erreur qu'il parlait de Diana Durbin, alors que selon une légende, donc il aurait en fait visé Judy Garland. Ce qui est certain, c'est que Joe Pasternak, qui était responsable des films musicaux de la Universal, ben lui, il attendait à la porte de la MGM et immédiatement donc que la pauvre Diana Durbin ait été expulsée, par malentendu ou pas d'ailleurs, il en a profité pour lui faire signer un contrat ébloui par ses qualités de soprano digne vraiment d'une chanteuse d'opéra.
Et dans ce petit film de 11 minutes, Every Sunday, le personnage de Judy Garland se prénommait Judy et celui de Diana Durbin, Edna, qui était en fait son vrai prénom. Et toutes les deux, eh ben, elles formaient un charmant duo.
Get going, come on, yeah, get going.
gauche, Judy Garland, 14 ans, à ma droite, Diana Durbin, 15 ans, le duo final de Every Sunday. C'était en 1936. À 15 ans, Diana Durbin est donc engagée chez Universal. C'est là qu'elle va faire toute sa carrière, une carrière finalement assez courte.
Oui, surtout si on regarde le cœur vraiment de cette carrière, qui se compose de 13 films qui ont été créés uniquement pour mettre en valeur sa voix et son physique d'adolescente poupine pendant une période qu'on peut qualifier de période glorieuse de Diana Durbin, qui est la période entre 1936 et 1943. Il faut savoir aussi que 6 de ces 13 films, donc de cette période phare, ont été réalisés par Henri Koster et qu'ils ont pendant des années constitué la principale source de bénéfices de la Universal.
Henri Koster qui, une quinzaine d'années plus tard, réalisera notamment La Tunique, le premier film tourné en cinémascope, bien sûr.
Premier des films donc avec Diana Durbin, c'est Trois jeunes filles à la page. C'est l'histoire, on ne peut plus familiale, de trois adolescentes qui essayent de réconcilier leurs parents.
Sur une musique qui gratte un petit peu, de Heinz Rommel.
Alors là, ce qui s'est passé, c'est que dès que les responsables de la Universal ont visionné les premiers rushs, ils ont décidé de placer Diana Durbin tout en haut de l'affiche. Et ils la font immédiatement, ils l'envoient immédiatement à la radio, participer à une émission radiophonique que toute l'Amérique écoutait à l'époque et qui était l'émission de Eddie Cantor. Et donc le succès est immédiat et l'adolescente est présentée comme la Radio Sensational Singing Star. Elle reprendra le personnage qu'elle joue donc dans ce film, Trois jeunes filles à la page, qui s'appelle Penny Craig, dans Les trois jeunes filles ont grandi en 1939, comme son nom l'indique, de Henri Koster, et Hers to Hold en 1943 de Frank Ryan.
Et ce Eddie Cantor dont vous parliez à l'instant déclara justement: Diana possède plus de charme, plus de grâce et plus de personnalité qu'une bonne demi-douzaine des plus grandes stars féminines d'Hollywood d'aujourd'hui.
Sacré Eddie.
Et dans Trois jeunes filles à la page, qui fut nommée à l'Oscar du meilleur film, on retrouvait également Rémi Lan, ne l'oublions pas.
Dans ses films, Diana Durbin incarne souvent une jeune fille ordinaire qui évite des drames à ceux qu'elle aime grâce à ses talents de chanteuse opérant un peu comme une baguette magique. Dans Diana et ses Boys de Henri Koster en 1937, elle convainc le grand chef d'orchestre Leopold Stokowski d'annuler une tournée en Europe pour diriger un orchestre composé de musiciens mis au chômage par la Grande Dépression.
Leopold Stokowski, futur chef d'orchestre de Fantasia, entre autres, qui joue donc ici son propre rôle face à Diana Durbin, qui, elle, chante notamment « It's raining sunbeams ».
Pouring down to break the ice, go right off on, make it known to everyone you love. It's raining sunny sunbeams.
It's raining sunbeams, il pleut des rayons de soleil. Diana Durbin dans Diana et ses Boys, c'était en 1937.
En 1939, là, nous avons First Love, qui est également réalisé par Koster, et qui est une version moderne de Cendrillon, dans laquelle le rôle du prince charmant est tenu, tenez-vous bien, par Robert Stack. Le fait d'avoir été choisi pour donner à Diana Durbin son premier baiser de cinéma, permit à celui qui allait être le futur Elliot Ness, alors débutant, de faire la une des journaux.
Et oui, c'était juste 20 ans avant Les Incorruptibles.
Mais vraiment, le premier baiser de Diana Durbin, le service de communication de la Universal, en avait fait toute une affaire.
En 1939, toujours, Diana Durbin et Mickey Rooney, qui avaient 7 ans de plus qu'elle, recevront un Oscar d'honneur venant récompenser le dynamisme et l'esprit de jeunesse qu'ils savaient l'un et l'autre si bien incarner à l'écran. Nous voici donc maintenant en 1940.
Avec La douce illusion, Diana Durbin s'éloigne encore plus de l'univers de l'adolescence, puisque elle et sa mère, qui est interprétée par la belle Kay Francis, sont deux chanteuses en compétition pour un rôle et pour un homme. L'homme, c'est Walter Pigeon. Alors Diana Durbin décroche le rôle, tandis que sa mère récolte le fiancé.
Et le rôle, c'est celui d'une bonne sœur prénommée Anne et qui chante l'Ave Maria de Schubert. Dernière minute de La douce illusion, tournée en 1940 et sortie en France en mars 45. Vous écoutez Le Filmographe sur Séance Radio. Cette semaine, Antoine Cyr nous balade dans la filmographie de Diana Durbin, une filmographie très chantante, mais au titre parfois un peu oublié. Par exemple, en 1941, Eve a commencé.
Alors, Eve a commencé, il est un peu oublié, mais alors celui-là, il faut vraiment pas l'oublier, parce que c'est peut-être le meilleur et le plus fameux de ce qu'on appelait les Diana Durbin Vehicles, c'est-à-dire les films destinés à véhiculer, si je puis dire, la personnalité de Diana Durbin. Et il s'appuie sur un bon scénario de screwball comédie et sur la rencontre entre l'actrice et un monstre sacré, Charles Laughton.
Qui venait de jouer le rôle titre de Quasimodo, le film de William Dieterle.
Alors là, il joue un rôle très différent. Il incarne un milliardaire agonisant qui tient absolument à rencontrer la fiancée de son fils, qui est interprétée par Robert Cummings, avant de mourir. Voilà, il veut que son fils lui amène sa fiancée. Mais le fils n'a pas la fiancée sous la main. Et comme il pense que son père, donc Charles Laughton, va mourir tout de suite, il demande à l'employé du vestiaire d'un hôtel de se faire passer pour elle. Elle se présente au chevet du vieil agonisant et déjà... Le premier regard de ce vieil homme au seuil de la mort, avec cette jeune fille qui est évidemment Diana Durbin, est imprégné de tendresse. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? La jeune femme se met au piano qui trône dans le vaste salon. D'ailleurs, elle est pas doublée parce qu'elle jouait très bien du piano, Diana Durbin. Et puis, elle entonne une chanson. Et là, le malade, donc Charles Laughton, qui est en haut, l'entend depuis sa chambre et il parvient à se remettre sur ses jambes. Il retrouve petit à petit toutes ses forces en l'entendant faire ses vocalises. Et bon, la brillante chanteuse, évidemment, n'est pas bien accueillie par le reste de la famille, à part bien sûr le jeune homme, mais de quiproquo en esclandre, elle va prendre la place de la véritable fiancée, tandis que le vieillard, Charles Laughton, alors lui on le voit faire absolument les 400 coups, il a plus du tout décidé de mourir, enfin il est plus du tout dans cette idée-là. Et donc Diana Durbin, c'était peut-être pas une grande actrice, mais l'alchimie avec cet intenable roublard quand même de Charles Laughton fonctionne parfaitement et l'aide à donner le meilleur d'elle-même dans le rire comme dans les larmes. Et sa prestation musicale est parfaite dans des chansons tirées quand même de Tchaïkovski et de Dvorak, ainsi que dans une chanson en espagnol au rythme endiablé. Elle s'accompagne donc elle-même au piano, la critique est bienveillante et le public est tout à fait enchanté par ce spectacle on ne peut plus familial.
Donc voici un petit extrait.
You have promised, and in a few years, or very few years possibly, I want you to come to me again, and now I'll get to the camp.
Diana Durbin face à Charles Laughton dans Eve a commencé de Henry Koster et nous voilà arrivés en 1943.
En 1943, c'est une Diana Durbin désormais âgée de 22 ans qui tourne sous la direction de Frank Borzeghi à la caméra très malicieuse dans La sœur de son valet. Elle incarne une jeune chanteuse qui s'ingénie à attirer l'attention d'un compositeur célèbre incarné par Franchotone malgré les barrières mises pour éviter qu'il soit dérangé par des inconnus. Le demi-frère de la jeune fille, Pat O'Brien, est le majordome du compositeur. Elle est recrutée comme domestique dans la même maison. Son charme attire vite l'attention du patron, mais le demi-frère fait tout pour les séparer. Il faut attendre les dernières minutes du film pour que le compositeur comprenne enfin quelle est la voix qu'il cherche pour son prochain show. Diana Durbin chante pourtant beaucoup dans le film, y compris en russe. Le film est tourné alors que les USA et l'URSS sont désormais alliés contre Hitler, et grâce à cette séquence et à son message social, montrant des domestiques en position très inférieure par rapport à leur maître, la sœur de son valet fera partie pendant 40 ans des rares films américains régulièrement diffusés en Union soviétique, où Diana Durbin faisait l'objet d'un véritable culte.
Diana Durbin chantant en russe dans La sœur de son valet, la comédie romantique de Frank Borzegui, comme il faut dire maintenant. C'était en 1943. En 1944, que se passe-t-il, cher Antoine ?
Eh bien, elle est fiancée au producteur Félix Jackson, après un premier mariage qu'elle n'a pas hésité à rompre, malgré les mises en garde du studio sur les risques encourus par sa réputation.
Félix Jackson, qui avait été le producteur de La sœur de son valet, ceci expliquant peut-être cela.
Alors justement, désirant se créer une véritable image d'actrice, elle demande à Jackson d'acquérir les droits d'un roman noir de William Somerset Maugham, on dit Borzegui, donc on dit Maugham aussi. Donc ce sera Vacances de Noël, où elle incarne une hôtesse et une chanteuse de boîte de nuit dont le mariage s'est avéré une catastrophe. Un soir de Noël, un jeune soldat entre dans sa vie, et là, ils vont ensemble à la messe de minuit, il se passe quelque chose entre eux, elle lui raconte sa vie, mais son époux, qui est incarné par Gene Kelly dans son premier rôle non musical, est un meurtrier en cavale. Il ressurgit et il décide de la tuer, car il ne supporte pas ce qu'elle est devenue. Le réalisateur Robert Siodmak échoue, on peut dire à l'époque, à convaincre Diana Durbin d'encanailler son jeu, mais quand même, elle pleure beaucoup, et Vacances de Noël est nimbée d'une tristesse assez prenante. La comédienne dira que c'était son seul film de qualité, en dépit de son échec commercial.
Oui, la même année, Siodmak réalisait Phantom Lady, les mains qui tuent en français, et s'apprêtait à tourner Les Tueurs avec Burt Lancaster et Ava Gardner, deux films restés un tantinet plus célèbres. Et c'est sur une composition du grand Irving Berlin qu'on retrouve Diana Durbin plus sensuelle que jamais.
Thank you.
Vacances de Noël de Robert Siodmak. Diana Durbin chantait Always. Kevin Berlin avait composé une bonne vingtaine d'années plus tôt. On retrouve Antoine Cyr pour la suite et la fin du filmographe consacré à Diana Durbin.
Et en 1945, elle tourne dans Diana mène l'enquête, un film policier réalisé par Charles David, d'origine française, qui va devenir son troisième mari.
Et qui, dans les années 30, avait travaillé en France avec Jean Renoir, Marc Allégret, ainsi que Marcel Carné. Son nom apparaît au générique de Drôle de Drame.
Peu après Diana mène l'enquête, elle quitte Hollywood et elle s'installe en France. Et alors là, elle va tourner le dos à toute vie publique. Et un jour, figurez-vous qu'elle refuse une interview. Et donc, c'est en 1971, et voilà ce qu'elle écrit au journaliste américain à qui elle refuse une interview. « Lors de notre mariage, mon époux et moi avons conclu un accord. Il me protège des araignées, des moustiques et des reporters, tandis que ma mission est de lui épargner les lions, les tigres et les dinosaures. Laissez, s'il vous plaît, mes fans profiter de la Diana Durbin d'autrefois et garder ce personnage de conte de fées hors de toute histoire du genre que sont-ils devenus. » Le couple s'installe à Naufle-le-Château, près de Paris, et Diana Durbin vivra en France jusqu'à sa mort, à l'âge de 91 ans.
C'était en avril 2013. Merci Antoine.
Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.